pays d'origine qui, dans certains cas, prennent tout leur temps pour le délivrer.
Paris, RFI, midi 10.
Midi 10 à Bordeaux également. Merci beaucoup RFI pour ce journal. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, un plat de résistance international puisqu'on se fera l'écho des rassemblements pour la Kanaky qui avaient lieu ce mardi dernier, jour de commémoration de la colonisation française de ce territoire. Et puis, on va s'intéresser à un événement culturel porté par l'Institut des Afriques qui se déroulera sur l'agglomération bordelaise en octobre. Ça s'appelle L'art au cœur du vivant. Avant ça, quelques infos en bref et puis vous faire un petit topo quand même sur ce nouveau gouvernement, même si vous l'avez peut-être entendu par ailleurs, on vous en fait un petit résumé. Nouveau gouvernement avec Michel Barnier comme Premier ministre et une tendance manif pour tous, c'est comme ça que titré Mediapart en début de semaine. Parmi les 17 ministres de plein exercice, on compte notamment 7 personnalités issues des rangs d'Ensemble pour la République, donc le parti macroniste, la coalition macroniste, 3 membres Les Républicains, donc de droite, mais si on compte l'ensemble des ministres et ministres délégués, eh bien 12 sont membres de la coalition macroniste Ensemble pour la République et 10 viennent des rangs des Républicains, avec notamment Bruno Retailleau, nommé ministre de l'Intérieur, figure conservatrice au sein de son propre parti, donc des Républicains, partisan d'une politique de civilisation. Cet élu de 63 ans a longtemps accompagné la Manif pour tous en s'opposant fermement à la loi Taubira qu'il voulait réécrire en cas de victoire de François Fillon à la présidentielle de 2017. En 2013, il avait même réclamé un référendum contre le mariage pour tous et tous qu'il qualifiait alors de cheval de Troie de la PMA et de la GPA. La nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle aussi membre des Républicains, appelait en juillet dernier à réprimer les mouvements contre les méga-bassines avec la plus grande fermeté. Elle est contre la PMA, procréation médicale assistée pour toutes, les drapeaux étrangers et les danses venues d'ailleurs, je cite, dans les mariages, ou encore l'enseignement de langue communautaire, là aussi c'est sa formule, à l'école. Ancienne proche de François Fillon, elle fait partie des élus LR tenant d'une ligne conservatrice. Avant d'être nommée ministre, elle était élue députée du Doubs depuis cet été. Et son suppléant, qui a pris donc sa place à l'Assemblée nationale, il est agriculteur, il est engagé au syndicat agricole FNSEA au niveau local. Signalons aussi que quelques jours seulement après la fin des Jeux paralympiques, aucun ministère dédié au handicap ne figure dans ce nouveau gouvernement. Les services du Premier ministre ont depuis annoncé qu'une ministre déléguée aux personnes en situation de handicap serait prochainement nommée. Il y a aussi dans ce gouvernement Guillaume Kasbarian, ministre nommé ministre de la fonction publique, ultra-libéral, auparavant député Renaissance. Il s'était fait connaître pour une loi sur le logement et surtout contre les squats, une loi qui portait son nom, la loi Kasbarian, considérée comme la plus répressive sur les expulsions de squats depuis des décennies. Depuis février dernier, il était aussi ministre du logement. Et donc sa nomination au poste de ministre de la fonction publique est accueillie avec crainte par les syndicats de la fonction publique qui craignent là aussi un plan d'austérité très important au niveau des fonctionnaires. Je n'ai pas parlé de Marc Ferracci, nommé lui ministre délégué à l'industrie. Il s'était fait remarquer en janvier dernier en proposant d'en finir avec le salaire minimum, ou plutôt de pouvoir négocier ce salaire minimum par branche et donc de ne plus l'indexer sur l'inflation, de manière évidemment à pouvoir le baisser plus facilement dans certains secteurs. Et puis la locale de ce gouvernement, c'est Nathalie Delattre, nommée ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Elle était auparavant sénatrice de Gironde et membre du conseil municipal de Bordeaux depuis plusieurs décennies. On aura sans doute l'occasion de reparler d'elle et de son action au niveau local dans un prochain plat de résistance. Voilà pour ce nouveau gouvernement. Un mot au niveau local d'une grève du côté de Mérignac, grève à l'EHPAD, les parentèles. 8 directions en 2 ans et demi, des problèmes de sous-effectifs, un manque de matériel et la dégradation de l'état des résidents ont poussé les salariés de cette EHPAD à faire grève. Donc depuis vendredi, nous raconte Sud-Ouest. Devant l'entrée de cet établissement spécialisé pour les malades d'Alzheimer, inauguré en 2017, les pancartes, écrit Sud-Ouest, témoignent du mal-être des salariés et des résidents. Dénutrition, manque d'hygiène, repas inadaptés, déshydratation, sous-effectifs chroniques, locaux délaissés ou encore insécurité des résidents, est-il inscrit sur ces pancartes. Les salariés en grève dénoncent un manque d'effectifs et se disent épuisés. Parfois, il n'y a qu'un seul aide-soignant pour 14 résidents, témoigne l'un d'eux. On n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde et on a même l'impression d'être maltraitant envers eux, malgré nous. Voilà des propos qui, une fois de plus, semblent assez courants dans ce type d'établissement. Une inspection du département et de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, menée en mai 2023, pointait dans son rapport une instabilité liée aux changements réguliers de direction et une pénurie de personnel, car cette EHPAD demande des moyens humains supplémentaires en raison de sa structure. Voilà des extraits de l'article qui consacre Sud-Ouest dans son édition d'aujourd'hui. On va parler tout de suite avec nos invités de cet événement L'Art au cœur du vivant qui aura lieu en octobre à Bordeaux. Et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on va commencer avec un peu de musique. Voilà, on commençait avec Étienne Mbappé, jazzman qu'on entendra dans le cadre de cette programmation L'art au cœur du vivant. Étienne Mbappé Trio, le 11 octobre au Rocher de Palmer. Bonjour Élodie Razo.
Bonjour.
Tu es chargée de communication de l'IDAF, l'Institut des Afriques, qu'on reçoit pour parler donc de cet événement, L'art au cœur du vivant, qui se déroulera à Bordeaux, Senon et Lormont du 4 au 18 octobre prochain. Série d'événements qui s'intéressent aux liens entre donc l'art et le vivant, des ateliers, des expos. On va avoir le temps de déplier tout ce programme. L'Institut des Afriques, on vous connaît déjà et tu es déjà venu parler notamment de Afrique en Vision, programmation de films qui est diffusée en fin d'année. Ce sera en novembre.
Oui, cette année du 28 novembre au 2 décembre, tout à fait.
Il y a également la saison de l'Institut des Afriques, une programmation pluridisciplinaire qui a lieu plutôt au printemps, fin d'hiver, printemps. Et puis là, nouveau format du coup, qu'est-ce que c'est cette nouvelle programmation, l'art au cœur du vivant, Élodie ?
Effectivement, nouvel événement, on avait à cœur en fait, avec ce format-là, de chaque année en fait, laisser carte blanche à un lieu du continent africain. Nous, on trouve inspirant et qu'il y a des pratiques, notamment en lien avec, avec le vivant, voilà, dont on a besoin de s'inspirer, nous, ici. Et donc, première édition, et on donne carte blanche à un lieu qui s'appelle la Fabrique de Souza, situé à quelques kilomètres de Douala, au Cameroun, et qui, nous, ce qu'on appelle ici un tiers-lieu éco-créatif et engagé, et voilà, au sein duquel on va autant pouvoir retrouver des résidences d'artistes, un terrain agricole, une banque de semences, des réflexions autour de l'économie du vivant, un herbier collectif. Et en fait, l'idée avec cet événement-là, c'était de refléter la variété des initiatives voilà, qui ont lieu au sein de la Fabrique de Souza à travers ce programme-là qui se déploie, donc, comme tu le disais, du 4 au 18 octobre à Bordeaux, au sein des Avant-Postes, l'ancien théâtre de la Lucarne entre Sainte-Croix et Saint-Michel, au Rocher de Palmer à ce nom, et à la Villa Valmont à Lormont, qui est la Maison des Écritures et des Paysages.
On va reparler de la Fabrique de Souza dans quelques minutes, si tout va bien, avec l'une de ses piliers,
cofondatrice,
ouais. Marem Malon, qui devrait être avec nous par téléphone. Peut-être comment vous, à l'IDAF, vous êtes tombé sur ce
oui,
lieu-là,
sur
la fondation.
Ce lieu. Alors c'est ma collègue Dana, coordinatrice de l'Institut des Afriques, qui a l'œil partout et qui a entendu parler de cet événement. Alors je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'était dans le cadre du forum de l'économie sociale et solidaire il y a quelques années et qui a trouvé voilà, le lieu tout simplement, les pratiques, les dispositifs en place tout à fait intéressants et elle a vraiment envie qu'on puisse le mettre en lumière au sein d'une programmation de l'Institut des Afriques. Donc ça a été un travail de longue haleine puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on est en lien aussi avec l'équipe de la Fabrique de Souza pour développer ce programme et voilà, à base de réunions très très récurrente pour mettre en place ce programme et au sein duquel en fait la quasi-totalité des invités sont des membres en fait de la Fabrique de Souza ou affiliés à la Fabrique de Souza de près ou de loin. Donc on les fait tous venir que ce soit du Cameroun mais aussi du Sénégal ou encore voilà, un peu partout en France et on a la chance voilà, d'avoir un super panel d'invités composé aussi bien d'artistes, d'intellectuels, d'historiens, d'anthropologues, voilà, donc ça promet un super programme.
Alors, tout ça commence le 4 octobre avec l'inauguration d'une exposition aux avant-postes dont tu parlais.
L'idée, juste petite parenthèse, de ce programme, c'était vraiment de travailler en partenariat, en collaboration avec les acteurs aussi du territoire de Bordeaux Métropole. Et c'est pourquoi, notamment par exemple pour cette exposition, on a voulu faire une exposition un petit peu croisée. Donc il y a 4 œuvres qui vont être présentées, 2 œuvres de la galerie MAM, donc qui est affiliée à la fondation MAM et à la Fabrique de Souza, dont Marem Malong pourra vous parler tout à l'heure, et 2 œuvres du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA. Et ces 4 œuvres en fait se répondent et abordent les questions de la mémoire de l'esclavage. Donc effectivement, on inaugure l'exposition vendredi 4 octobre à 18h aux Avant-Postes à Bordeaux. L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Et à 19h, on proposera une causerie. On a plusieurs causeries comme ça au sein du programme qu'on veut participatives. On a un panel d'invités, mais on veut aussi que le public présent se saisisse des questions et puisse interagir autant qu'il le souhaite durant ces moments avec les invités. Et là, la première causerie aux avant-postes à la suite de l'inauguration de l'exposition, donc, elle se centrera autour des questions de restitution du patrimoine culturel africain pillé pendant la période de colonisation et d'esclavage. Et on invitera, il y aura notamment Marem Malon qui sera autour de la table, Simon Jamy, un commissaire d'exposition, Ayoko Mensa, une curatrice artistique, et Katia Koukafka, que peut-être les auditeurs ils connaissent bien, qui est la directrice adjointe du Musée d'Aquitaine.
Et sur ce sujet qui est dans l'actualité ces dernières semaines, avec notamment la sortie du film.
Oui, tout à fait, avec Dahomey, exactement.
Alors il y a plusieurs causeries, tu le disais, le 8 octobre sur l'entrepreneuriat culturel responsable, une autre sur l'économie du vivant. Peut-être deux mots sur pourquoi ce sujet-là, l'économie
du
vivant.
Oui, alors les intervenants en parleront bien mieux que moi, ce sont des spécialistes que nous invitons, mais en quelques mots en fait on a voulu se baser sur la pensée développée par Felwine Sarr, penseur sénégalais, qui avance que l'économie du vivant serait une économie plus respectueuse de l'environnement, des êtres humains, etc. Et donc on invite le 9 octobre à la Villa Valmont à 19h pour cette causerie Diego Landivar, qui nous vient de Clermont-Ferrand, qui est un économiste, mais aussi Émilie Guittard, une anthropologue, et ensuite deux maîtres de conférences de Sciences Po Bordeaux, Rosane Diallo et Jean-Philippe Bérou, pour en discuter, à partir de la pensée développée par Felwine Sarr, mettre en débat cette idée de l'économie du vivant.
Une soirée concert, donc je le disais, le 11 octobre avec Étienne Mbappé qui est camerounais, et puis Okali, un groupe français de trip-hop.
Tout à fait, avec nos amis du Rocher de Palmer qui ont accueilli avec enthousiasme cette proposition musicale. Étienne Mbappé qui est une légende de la basse, une légende du jazz camerounais qui sera des nôtres, avec une formation avec un musicien à la guitare et un autre à la batterie qui sont des étoiles montantes et qui seront à ses côtés. Et Okali, effectivement, que peut-être certains ont pu déjà découvrir sur les scènes de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque si je ne me trompe pas, ils font partie de la pépinière du Krakatoa. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ils seront en première partie, donc Étienne Mbappé, le 11 octobre au Rocher.
Très bien. Alors, il faut dire que y a toute la proposition grand public, ces événements-là dont on parle, et puis il y a aussi toute une série d'ateliers pour un public scolaire.
Tout à fait.
C'est ça. Racontons un peu ça, et puis ça va ensuite être restitué en fin de
exactement.
Fin d'événement.
Ouais. La majorité, en fait, on a un volet action culturelle au sein de l'Institut des Afriques qui est très important et qu'on développe de plus en plus. Et il allait de soi que il fallait profiter de la présence de nombreux invités, et de leur de leurs compétences, de leur parcours, et mettre cela au service de propositions auprès de collégiens et de lycéens. Donc on a toute une série d'ateliers, effectivement. On a un atelier notamment qui va porter sur la fabrication de peintures végétales, un autre sur redessiner les objets du patrimoine culturel africain. Ça sera avec Anna Mapoubi, qui est une artiste pluridisciplinaire qui est basée en France actuellement et qui a fait une résidence en fait artistique à la fabrique de Souza. Mais également des ateliers autour de la cartographie du vivant avec une philosophe qui s'appelle Séverine Kodjo-Granvaux, aussi membre de la fabrique de Souza, ainsi que Parfait Akana, un anthropologue. Et effectivement, comme tu le disais, l'idée à chaque fois avec ces ateliers, c'est qu'il y ait des moments de restitution publique. Donc on aura par exemple une soirée le jeudi 17 octobre autour des mémoires alimentaires, où des jeunes lycéens auront travaillé avec une poétesse qui s'appelle Ernice sur l'écriture de slam autour de leurs propres mémoires alimentaires. Et on aura le plaisir de découvrir une petite sélection des slams écrits par les lycéens.
Très bien, donc le 17 et le 18 octobre également, deux soirs de restitution. Je n'ai pas encore accueilli Gérard Clabé. Salut Gérard.
Salut.
De l'émission Le Guide du Bordeaux Colonial. Tu seras là pour la Clé des Ondes. La Clé des Ondes sera présente lors de
Tout
ces deux
fait.
Soirées pour donner la parole aussi aux intervenants, intervenantes et discuter de tous ces sujets-là. Peut-être deux mots là-dessus, Gérard ?
Ben ouais, on est vraiment ravis de l'invitation faite par l'Institut des Afriques d'être associé à cet événement. Moi, je pense que quand même, il s'agit ici d'un très gros événement avec, avec des discussions, des rendez-vous, des rencontres d'importance. Alors nous, on sera présent la Clé des Ondes le jeudi 17 octobre et le vendredi 18 octobre, c'est-à-dire l'avant-dernier jour et le dernier, puisqu'il s'agit d'une quinzaine qui se terminera le 18 octobre. Et on va monter un plateau avec toi, Baptiste, un plateau radio, pour être présent les deux derniers jours et pour pouvoir accueillir les invités, des invités prestigieux qui sont dans cette quinzaine.
Élodie, on a fait le tour de l'essentiel du programme.
Oui, peut-être. Voilà, après tout le détail est sur le site de l'Institut des Afriques, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a quelques événements qui sont payants, très peu, mais voilà, pour lesquels il faut s'inscrire, et d'autres, la majorité du programme est en accès gratuit. Et quelquefois, il faut s'inscrire également parce que les jauges sont limitées. Donc je vous invite à aller retrouver tout ça en ligne sur institutdesafriques.org. Et si vous préférez, vous êtes un adepte du programme papier, les programmes sont aussi disponibles un peu partout en ville. Donc voilà, au plaisir de vous y retrouver, vous retrouver sur cette première édition donc, de L'Art au cœur du vivant.
Très bien, merci beaucoup Élodie. Je rappelle que tu es chargée de communication de l'Institut des Afriques. Et si tout va bien, j'accueille maintenant Marem Malong. Bonjour Marem.
Bonjour Baptiste.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de la galerie MAM, puis de la fondation MAM, où se trouve la fabrique des Souza au Cameroun. On va prendre le temps de détailler, de raconter tout ça avec vous. Merci beaucoup d'être là. Où est-ce que vous vous trouvez là tout de suite, Marem ?
Je viens d'arriver à Grand Souza.
Quel temps fait-il chez vous et quelle heure est-il ? Ah voilà, bon bah c'est les aléas du direct alors. on va
Voilà, oui, tout à fait.
Ah, ça y est, ça fonctionne, on est avec vous.
Voilà, on vient d'arriver. Et on a une pluie battante.
Très bien. Eh bien, je laisse la parole à Gérard pour mener l'interview.
Oui, bonjour Marem Malong, je suis Gérard Clabé, membre de La Clé des Ondes, la radio associative de Bordeaux, et je voudrais vous poser comme première question, Bordeaux, c'est pas une ville quelconque pour vous, puisque vous y êtes né.
Oui, vous savez tout, j'y suis né.
Alors, il y a des petites coupures.
Je suis née il y a un certain nombre de décennies et je suis ravie que cette carte blanche ait été proposée à la Fondation parce que, voilà, je renoue avec Bordeaux quelque part.
Et vous avez gardé des liens avec notre ville, des liens un peu précis ou étroits ?
Non, pas vraiment.
D'accord.
Pas vraiment, parce que je vais tout vous dire. Hein. En fait, je suis née à Bordeaux presque par accident, parce qu'à l'époque, je pense que les mariages mixtes étaient compliqués.
Mmh. Bon, on va se faire à ces petites coupures et ça va revenir dans quelques secondes.
Pourquoi je suis née à Bordeaux ? Je n'y suis restée que quelques mois. Et voilà. Et donc, je n'ai pas de lien en tant que tel à Bordeaux.
Ok, alors, en fait, on pourrait dire, en ce qui concerne la fabrique de Souza, en ce qui concerne les raisons qui vous amènent à Bordeaux très prochainement, on pourrait dire qu'au début, était la galerie d'art MAM, à la mort de votre mère en 1995. Cette galerie d'art qui a grandi et qui est devenue une fondation depuis 2019.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que la galerie existe toujours, mais en parallèle, et elle a une vocation commerciale, et la fondation a été créée effectivement en 2019, mais en parallèle de la galerie. Voilà, donc la galerie ne s'est pas transformée vraiment en fondation.
D'accord.
Bon, alors, c'est la coupure se prolonge peut-être. Est-ce que, Marem, est-ce que vous nous entendez?
Oui, là, je vous entends. Je suis désolée hein, pour cette mauvaise connexion, mais bon, ça fait partie de nos réalités.
Hein. Eh oui, effectivement.
Alors, la fabrique de Souza, parlons d'elle. Quand est-ce qu'elle a été créée exactement?
Alors, je ne me situerai pas volontairement sur le plan juridique. Je me situerai sur le plan de la réalité des activités et de la réflexion qui a été menée. En fait, elle a été créée en 2019, juste avant la Covid.
Eh oui. Bon, voilà, on est en communication avec le Cameroun, donc c'est compliqué. Merci d'être indulgent avec ces communications. Mais on va essayer quand même d'aller au bout de l'entretien. Marem?
Faite à Dakar, au niveau des ateliers de la pensée. Et donc, ils m'ont renvoyé un petit peu la balle en me disant, mais toi, que fais-tu? Alors, ils m'ont dit, mais si tu montes quelque chose, on t'accompagne. Donc, l'idée, c'était de se réunir un petit groupe d'amis, de personnes qui se connaissaient au départ, Séverine Kodjo-Granvaux, Felwine, Sarr, Parfait Akana qui est anthropologue, donc des anthropologues, des géographes, des histographes, des poètes, des Simon Djami qui est...
C'est presque du teasing, on a droit. Donc il va falloir venir du 4 au 18 rencontrer Marem qui sera avec nous pendant tout le programme.
Oui, sans coupure.
Voilà, sans coupure, en direct live.
Qu'est-ce qu'on fait? On continue quand même? On essaye d'en savoir un petit peu plus?
À vous
c'est
de voir.
C'est du direct, je demande à mes collègues sur le plateau.
Ouais, enfin, moi je voulais, juste pour situer, rappeler que Fabrique de Souza, c'est lié aussi à un lieu. C'est un lieu qui se trouve près de Douala, au Cameroun. Et c'est en fait sur les terres familiales de Marem Malon. Et c'est sur la commune de Bonalea. C'est un lieu qui s'appelle Grand Souza. Voilà pourquoi aussi le nom de Fabrique de Souza. Après, évidemment, elle était en train de vous expliquer à quel point il s'agit d'un lieu, une fabrique, un atelier avec des animations, des domaines absolument multiples. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça aussi qui, je crois, sera en octobre prochain, sera présenté à Bordeaux, c'est-à-dire que ce qui se passe là-bas, qui est vraiment un lieu vraiment très intéressant, très important, près de Douala au Cameroun, eh bien vous en aurez, sans avoir à vous déplacer, vous en aurez une vision très très précise, juste, complète, à Bordeaux, durant cette quinzaine. On vous rappelle les dates, du 4 au 18 octobre.
Merci Gérard. Alors on a essayé de rappeler Marem, est-ce que... Vous êtes
là,
Marem.
Je vous entends.
Ouais, alors peut-être la suite de cette histoire, donc toutes ces rencontres dont vous parliez, et puis un moment, la nécessité de s'ancrer, c'est ça, dans un lieu?
Exactement, et surtout de ne pas se contenter de... Bien sûr, il faut réfléchir, mais d'être dans l'action et dans l'expérimentation. Donc...
Bon, voilà, c'est reparti. Que fait-on? On peut écouter un peu de musique avec Okali, et puis peut-être pendant ce temps, on va essayer de voir si on retrouve une meilleure connexion. Donc Okali qui sera sur la scène du Rocher de Palmer le 11 octobre dans le cadre de cette programmation.
I traveled from my body control. The first I never know, because it's worth it. Must intimate memories. I travel from my body like a shoreline.
Voilà, c'était Okali, Okali qui sera sur scène lors le 11 octobre, la scène du Rocher de Palmer dans le cadre de l'art au cœur du vivant. Voilà, on abandonne, désolé pour ces coupures multiples, on entendra Marem Malong lors de sa venue à Bordeaux début octobre, puisque non seulement il y aura ces deux plateaux les 17 et 18 octobre depuis la Villa Valmont.
À Lormont,
mais également qu'on va essayer d'enregistrer les tables rondes, au moins une table ronde qui aura lieu au début de la programmation.
Ouais, c'est ça, la journée d'inauguration, on pourrait dire, ce qu'on appelle une causerie, avec un débat qui nous intéresse particulièrement qui s'appelle « Quel avenir pour le patrimoine culturel africain ?» avec toute la question de restitution des œuvres.
Merci Gérard, merci beaucoup à Elodie Razo de l'IDAF qui était venue nous présenter ce programme. Et à 12h43, on reste dans ce plat de résistance, on reste aussi avec toi Gérard, puisque tu t'es rendu pour la Clé des Ondes à ce rassemblement organisé par le collectif Kanaki Bordeaux, mardi, du côté de la place de la Victoire. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Ben oui, c'était avant-hier, mardi 24 septembre, place de la Victoire, pour un rassemblement, comme partout en France hexagonale, on va dire, mais aussi en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, à l'appel des indépendantistes kanak. Un rassemblement qui a quand même réuni une centaine de personnes. C'était avant-hier, le 24 septembre, un jour anniversaire d'importance pour les Kanak. Je vais laisser le soin tout de suite à Jean-Louis Outili, membre du collectif Kanaky de Bordeaux, dont il est un des fondateurs, avec Cécile Ouidraogo, entre autres, un des fondateurs en juin dernier. Je laisse le soin à Jean-Louis Outili de nous expliquer les raisons de ce rassemblement. Il aura également l'occasion, dans sa déclaration, de revenir sur l'histoire de la lutte Kanak.
Je parle ici au nom du collectif Girondin de soutien à la lutte du peuple kanak. 171 ans de colonisation française en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, ça suffit. Ce 24 septembre est important pour vous, kanak, représentants du peuple kanak ici à Bordeaux, pour la mémoire de tout votre peuple colonisé par la France au 19e siècle. Il y a 171 ans. 1853 est l'année où la France a commencé votre calvaire. Et depuis, votre lutte n'a pas cessé pour retrouver votre liberté arrachée. Cette commémoration a lieu dans toute la France et au pays autour du drapeau kanak. Que veut dire colonisation de votre peuple ? C'est être décimé en grande partie par des maladies importées par les colons. 80% des îles du Pacifique ont été décimées de 1874 à 1883. C'est le peuplement par des agriculteurs français qui s'accaparent les meilleures terres. Des milliers de communards, dont Louise Michel, l'internationaliste. Des Kabyles, eux aussi déportés suite à leur révolte contre la colonisation de l'Algérie et autres vagues de peuplement. Ceci pour, dès le début, rendre le peuple kanak minoritaire sur sa terre. Mais c'est aussi la répression barbare et les massacres de la grande révolte de 1878 menée par le chef Ataï, dont la tête sera conservée dans le formol au musée de Paris pendant plus d'un siècle. C'est le zoo humain lors de l'exposition universelle en 1931. C'est 1913 et le massacre de la révolte menée par le chef Noël. Mais dans les années 80, c'est aussi l'exécution des lois Machoro, puis le massacre dans la grotte d'Ouvéa sous un gouvernement de cohabitation Mitterrand-Chirac. C'est le code de l'indigénat qui est appliqué jusqu'en 1944, alors que de nombreux Kanaks ont participé à la libération de la France dans les tirailleurs océaniens. Notre histoire est liée à celle de la Kanakie par le même oppresseur, notre exploiteur, le capitalisme français, et l'État à son service. Aujourd'hui, c'est la déportation en métropole des Kanaks, dont Tristan Théin, président du FLNKS. Ils ont pris la route inverse des déportés communards et kabyles, jadis, suite aux émeutes qui ont suivi le vote honteux de l'Assemblée nationale le 13 mai 2024, vote qui impose au peuple kanak le dégel du corps électoral, le rendant minoritaire dans son propre pays. À 17 000 km des leurs, ces pratiques de déportation que l'on croyait révolues, la France de Macron les fait revivre. Votre histoire est si riche que l'Organisation des Nations Unies elle-même a érigé en droit la restitution de son pays au peuple kanak pour son indépendance totale, pleine et entière, reconnaissant votre drapeau dans le concert des peuples du monde. La France ne s'honore pas et se déconsidère aux yeux des peuples du monde à traiter ainsi le peuple kanak qui tient dur comme fer à ses droits, sa liberté et à son indépendance future. Encore deux morts de 29 et 30 ans cette semaine, ce qui monte à 13 en quelques mois, tués par les milices ou les gendarmes français qui tirent à balles réelles. Des centaines d'arrestations et de citations en justice, on dirait la répression des gilets jaunes, mais en plus féroce. Macron et ses gouvernements successifs ont une grande responsabilité d'avoir trahi, rompu et déchiré les accords de Matignon et de Nouméa signés avec le peuple kanak et son FLNKS il y a une trentaine d'années. Déjà, la solidarité avec la lutte du peuple kanak de la part d'autres peuples colonisés s'affirme, venant des Antilles et Guyane et plus largement des Caraïbes. Soyons prêts ici, aux côtés du peuple kanak, à le soutenir dans sa lutte courageuse pour gagner un jour son indépendance véritable, comme tant de peuples y sont parvenus. Notre jeune collectif de solidarité y travaille et appelle les organisations et partis anticolonialistes à le rejoindre. Libération immédiate de tous les prisonniers politiques kanak. Arrêt de la répression coloniale contre le peuple kanak et ses alliés. Retrait définitif de la loi sur le dégel électoral. Vive la solidarité avec la lutte du peuple kanak pour son indépendance.
Voilà, vous venez d'écouter la captation entière de la déclaration de Jean-Louis Outilly du collectif Kanaki de Bordeaux avant-hier, place de la Victoire. On va écouter maintenant une autre déclaration faite avant-hier celle d'un Kanak, que certains connaissent sans doute, qui vit, car il vit à Bordeaux depuis près de 40 ans, qui vient de Canala, sur la côte est de la Grande Terre, en province nord. Une commune de lutte indépendantiste, c'est la commune d'Éloi Machoro en particulier, tuée par un sniper de la gendarmerie en 1985. Eh bien, ce témoin, ce militant Kanak qui vit à Bordeaux, c'est John Carambeu.
Bonjour, je m'appelle John. Je suis membre de la communauté Kanak de Bordeaux. Et je vous parle en ce jour symbolique des 171 ans du commencement de la colonisation française en Kanaky. La Kanaky est à un tournant de son histoire. Le jeudi 19 septembre 2024 en Kanaky, le colonialisme français a encore démontré sa brutalité en terre kanak. Deux jeunes ont été tués par les forces françaises qui se sont déployées puis renforcées dans le pays depuis le 13 mai 2024. Plus de 7000 hommes envoyés dans le Pacifique sur cette terre qui n'appartient pas à la France pour faire régner l'ordre colonial, éteindre toute contestation par la violence. Deux morts de plus dans cette liste trop longue de sacrifiés pour une cause dont la justesse paraît pourtant évidente. Les Français ne sont pas chez eux en Kanaky. Ils doivent conformément aux résolutions des Nations Unies accompagner le peuple kanak sur le chemin de la pleine souveraineté. La communauté kanak lance un appel aux différentes organisations anticolonialistes pour un soutien plein et entier au peuple kanak violenté. Nous devons nous opposer fermement aux agissements d'un gouvernement français qui ne connaît que la brutalité. Les positions les plus en plus radicales de ces appuis locaux ne pourront que rendre plus difficile la solution proposée par les Kanaks d'accueillir toutes les communautés, notamment celles victimes de l'histoire coloniale de France. Le Kanak est chez lui et dans son droit. Seule la pleine souveraineté de la Kanaky est la solution viable pour un avenir apaisé. Ni les exactions perpétrées par les forces françaises, ni les positions réactionnaires et colonialistes des supports de la France ne pourront ébranler la détermination de notre lutte. La communauté kanak lance également un appel au peuple des dernières colonies françaises. Je pense à la Martinique, à la communauté internationale pour intervenir dans les plus brefs délais en diligentant une mission afin de faciliter le dialogue et la raison et faire cesser le massacre des Kanaks. Tchoka, Kanaky libre.
Ben voilà, c'était John Carambeu, l'oncle du footballeur bien connu, mais c'est pas ça le plus important, un Kanak installé à Bordeaux depuis 40 ans et qui n'aspire lui aujourd'hui que à l'indépendance, à la pleine souveraineté de la Kanaky le plus vite possible. Car on s'est entretenu un petit peu après cette déclaration. Pour lui, ça n'est trop. Il y a eu trop de victimes, trop de temps perdu, trop de promesses trahies, trop de coups fourrés politiques, le dernier en date étant en mai dernier celui de Macron. Et désormais, des Kanaks minorisés chez eux par des loyalistes de plus en plus radicalisés et méprisants, encouragé par l'État français qui est sorti de son rôle d'arbitre.
Hommage, hommage aux martyrs de la Kanaky. 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 Tête de liste Ataï Mekwindo, Pierre de Claire, toi notre frère.
tête de liste à taille, mais Quindo. Pierre de Claire, toi notre frère.
Hommage, hommage,
martyr de la Kanaky.
Hommage, hommage,
au martyr de la Kanaky.
Hommage,
au martyr de la Kanaky. 12 janvier à Tony, hello à Machoro. Et Marcel, 10 de Yengen, 19 d'Ouvea, mort censure sur Kanaky.
Hommage,
hommage, au martyr de la Kanaky. Martyr de la Kanaky.
Hommage,
martyr de la Kanaky.
Hommage,
martyr de la Kanaky.
Hommage,
martyr de la Kanaky. De la Kanaky.
Hommage,
au martyr de la Kanaky.
Hommage,
au martyr de la Kanaky. A Ouvea, Jean-Marie, Meye Wene, Jubeli, Wea, l'innocent. A Ouvea, Jean-Marie, Meye Wene, Jubeli, Wea, l'innocent.
Hommage,
au martyr de la Kanaky.
Hommage,
hommage, au martyr de la Kanaky.
Hommage,
hommage, au martyr de la Kanaky. De la Kanaky.
Hommage,
hommage, de la Kanaky.
Eh ben, c'était Hommage, Hommage au martyr de la Kanaky, une chanson de J.V. Descas, un groupe phare et historique de la scène musicale et politique kanak. Alors, c'est une chanson déjà ancienne, mais que les jeunes chantent encore et reprennent ses paroles, car hélas, la liste des martyrs s'allonge, on pourrait dire, tous les jours.
Merci beaucoup Gérard pour ce reportage et pour toutes ces explications sur ce dossier Kanak. On peut renvoyer aussi nos auditeurs, auditrices aux émissions que le Guide du Bordeaux Colonial y a consacrées. Et puis aussi, c'était dans le plat de résistance, je pense qu'on en a parlé au mois de juin dernier. Merci beaucoup Gérard. On te retrouve mercredi prochain ?
Oui, mercredi prochain.
À 13h,
entre
le Guide du Bordeaux Colonial.
Oui, soit en retour justement sur les événements en Kanaky Nouvelle-Calédonie, quelque chose sur le Cameroun dont on a parlé.
Très bien, merci beaucoup. On va terminer comme ça ce plat de résistance. Il est dans une poignée de secondes, 13h sur la clé des ondes. Pas de rediffusion d'acétone aujourd'hui. J'en profite tout de même pour vous annoncer quelques événements qui ont lieu cette fin de semaine sur Bordeaux. D'abord ce week-end, le jardin L'Éphémère, basé du côté de Bègles, au bout de la rue du Général Fédère. Eh bien, le jardin et l'association fêtent leurs 10 ans. 10 ans que c'est créé, 12 ans qu'on rêve, cultive, qu'on tisse, qu'on accueille, qu'on se régénère, bref, un sacré cycle. Et pour le fêter, eh bien, les membres du jardin vous invitent à cette fête tout le week-end. Ça commence samedi à 17h avec la compagnie La Tendresse du Gravier et un spectacle de clowns. Puis ce sera suivi d'un repas bio, équi, local, trop bon et bio. Et ensuite, à 21h, concert de l'Afro Social Club. Ça se poursuivra aussi le lendemain avec, pareil, du clown, un atelier goguette, détournement de chansons et l'inauguration.